Bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. C'est aujourd'hui vendredi, le 8 décembre. C'est Hélène Bédard qui vous parle et en studio, Madame Francine Forget.
Bonjour Hélène.
Bonjour, Madame Catherine Brunet.
Bon matin.
Et Monsieur Mathieu Tessier, notre fidèle régisseur. Oh, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu ta voix. Ah ben voilà, il garde le silence. Je le vois parler, mais j'entends rien. Alors voilà, allons-y avec la présentation de nos sujets. Francine, vous allez nous parler de...
Alors moi, je vais parler de la cyberdépendance. Alors cette semaine, ça a été un des sujets de l'heure à la suite de la diffusion du documentaire Bail et aussi de textos et littérature.
Fort intéressant à nouveau. Et vous, Catherine?
Je vais parler de... Je suis toujours dans la revue Caribou, qui est une revue sur la culture culinaire québécoise. Je vais vous parler d'un styliste culinaire, Daniel Reich, et je vais vous parler aussi d'une tradition autochtone au niveau des couteaux.
Tiens donc! Intéressant. Ouais. Et à mon tour, je vais vous parler de trois femmes. Je vous en parle tantôt. Alors, un court moment. Oui, rebonjour. Ce matin, je vais vous parler de Françoise Héritier, qui est décédée il y a très peu de temps. Françoise Héritier, qui était ethnologue et anthropologue. C'est la première femme anthropologue au Collège de France et a mis le corps humain au cœur de sa discipline, afin d'éclairer notamment la domination masculine. C'est un texte qui me vient de la revue Le Monde, le 15 novembre 2017. Me voilà. Françoise Héritier est morte dans la nuit du 14 au 15 novembre à l'hôpital de la Pitié de Salpêtrière à Paris. Elle avait 84 ans. Françoise Héritier, que j'aimais tant, nous a quittés cette nuit-là au-delà de la tristesse. Je garderai en mémoire le souvenir d'une femme d'exception, grande intellectuelle, sensible, modeste et profonde. Elle était et restera un modèle, a fait savoir son éditrice Odile Jacob sur son compte Twitter. Née en 1933, historienne et géographe de formation, l'Auvergnate s'initie à 20 ans à l'anthropologie sociale auprès de Claude Lévi-Strauss en assistant à un séminaire de l'École pratique des hautes études sur la parenté à Fidji. En 1957, elle part en mission en Afrique, en Haute-Volta. Elle commence une série d'enquêtes qui la conduiront à travailler dans les années qui suivent auprès des Mossis, des Bobos, des Dogons et des Samos en Afrique. En 1980, elle est nommée directrice d'études des hautes études en sciences sociales et l'année suivante, elle publie l'un de ses premiers livres, L'exercice de la parenté. En 82, elle est élue professeure au Collège de France. Tout un parcours. C'est en Afrique que Françoise Héritier pose les fondements de sa propre anthropologie, tout en poursuivant fidèlement le travail de Claude Lévi-Strauss sur les systèmes de parenté, elle n'en vient pas moins à déplacer progressivement la clé explicative des faits humains ou symboliques vers le biologique, le physiologique, bref, vers le corps. Dès lors où le maître cherchait l'origine des grandes oppositions binaires, inférieur-supérieur, le cru, le cuit, la terre, le ciel, dans l'organisation universelle de l'esprit humain, l'élève a exploré le substrat anatomique qui sous-tend toute notre façon de lire le réel et d'organiser le monde. Parmi ces grandes logiques de représentation, l'articulation masculin-féminin représente la plus fondamentale. Et ici se trouve la principale trouvaille de Madame Héritier, qui a fait de la valence différentielle des sexes un second universel culturel après la prohibition de l'inceste repérée par Lévi-Strauss. Partout à chaque époque, dit-elle, fut affirmée la suprématie du masculin et il faut admettre que l'origine de la domination masculine s'opère dans la nuit des temps. Voilà pourquoi il est difficile de lutter contre des inégalités sexuelles, puisque les Lumières elles-mêmes n'y changent absolument rien. Il y a là un exemple de ce qu'elle appelle des invariants, ces cadres de pensée aux allures d'évidences obligées qui nous agissent sans que nous en ayons conscience. Donc, mettre au jour ces invariants, élucider l'ordre caché des choses, telle était pour elle la tâche de l'anthropologie. Mais qui dit invariant ne dit pas immuable. Traquant les fondements de la domination masculine, Françoise Héritier a montré que le privilège exorbitant d'enfanter a constitué dès l'origine le cœur de l'aliénation féminine, les mâles ayant dû engager une véritable épreuve de force pour s'en assurer le contrôle. Cela repéré, la maîtrise de la fécondité devient un formidable outil de libération et sur ce point, Madame Héritier a sensiblement évolué au fil du temps, démontrant à ses détracteurs que sa démarche n'avait rien d'un formalisme froid. « Je doute qu'on n'arrive jamais à une égalité idyllique », avait fini par admettre que la réappropriation de leur corps avait constitué pour les femmes une révolution essentielle. Ainsi, ceux qui confondent l'anthropologie de Madame Héritier avec le rejet de l'histoire en sont pour leurs frais. Paradoxalement, ce sont les mêmes qui lui reprochaient ses interventions dans les espaces publics, du soutien aux sans-papiers au combat pour la parité. L'anthropologue dans la cité, tel est d'ailleurs le titre que Françoise Héritier avait choisi de nommer l'un de ses séminaires du collège. Ce faisant, elle tirait les leçons des années passées à la présidence du Conseil national du SIDA, où elle lutta contre l'ostracisme qui frappe les séropositifs dans les prisons et obtint le rattachement de la médecine pénitentiaire au ministère de la Santé. Face au VIH et à ses secteurs de contamination, elle mobilise les résultats de ses travaux sur l'anthropologie des substances, la mécanique des humeurs et des fluides. Ces liqueurs qui sourdent des corps et dont la circulation tient une place fondamentale dans la définition proprement biologique de l'identité humaine. Nourrie de ces terrains africains, Françoise Héritier a donc bâti une pensée anthropologique qui fait de la sexuation la base de nos catégories mentales, de ce qu'elle nommait le butoir ultime de la pensée, donnant enfin du corps au concept. Elle a aussi exhorté les ethnologues à poser systématiquement la question désormais incontournable de l'identité sexuelle de leurs informateurs et de leurs informatrices. Quand on parle de règles d'échange, par exemple, il faut savoir si l'énonciateur est un homme ou une femme. Ça change tout. Jusqu'à la fin, Françoise Héritier est intervenue dans le débat public au lendemain de l'affaire Harvey Weinstein. Ce producteur américain, accusé de viol et de harcèlement sexuel, elle s'était ainsi félicitée que les femmes du monde entier prennent enfin la parole. « Je trouve ça formidable, expliquait-elle, que la honte change de camp est essentielle et que les femmes, au lieu de se terrer en victimes solitaires et désemparées, utilisent le « Me Too » ou « Moi aussi » d'Internet pour se signaler et prendre la parole me semble bien prometteur. C'est ce qui nous a manqué depuis des millénaires, comprendre que nous n'étions pas toutes seules. Les conséquences de ce mouvement peuvent être énormes. C'était un texte donc paru dans Le Monde le 15 novembre dernier par Anne Chemin. Voilà en studio et Francine Forget va nous entretenir de ces magnifiques sujets.
Oui, la cyberdépendance. Alors, quand il ne reste que la vie en ligne, un texte de Jean Siag. Mardi dernier, Radio-Canada a diffusé le documentaire « Bye », dans lequel l'homme d'affaires Alexandre Taillefer tente de comprendre ce qui a poussé son fils Thomas au suicide à l'âge de 14 ans. La presse en parle avec l'un des intervenants du film, Miguel Thériault, du centre d'hébergement Le Grand Chemin, qui accueille des jeunes aux prises avec une dépendance. Des jeunes dépendants de l'Internet et des jeux en ligne comme Thomas, vous en voyez beaucoup? En fait, c'est une clientèle que nous ne connaissions pas avant 2012. Il n'y avait pas de demande, ce qui ne veut pas dire que le problème n'existait pas. Mais depuis, nous recevons de plus en plus de jeunes qui nous sont référés par les services de santé. Aujourd'hui, il y a entre 5 et 7 % des jeunes que nous accueillons, sur environ 250, qui souffrent de cyberdépendance. C'est un nombre qui est en augmentation? Oui, ça tend à augmenter depuis 2012. Mais il y a un contexte particulier au Québec, puisqu'il n'y a pas de structure claire de détection de ces cas-là. Ce n'est pas un problème qui est reconnu par le ministère de la Santé. Donc, le nombre de cas augmente, mais le jour où le gouvernement réagira, je crois qu'on en recevra plus de jeunes encore. Plusieurs des jeunes cyberdépendants que l'on voit dans le documentaire sont victimes d'intimidation ou d'une forme de rejet. Les écrans et les jeux deviennent alors un refuge. C'est bien ça? Tout à fait. La cyberdépendance est une dépendance de refuge. Il y a un sentiment de protection dû au caractère anonyme de l'ordinateur. Si je vis des problèmes relationnels ou de l'anxiété sociale, le fait d'être devant un ordi est très sécurisant. Vous la définissez comment, la cyberdépendance? Il faut qu'il y ait une perte de contrôle de l'utilisation d'Internet, mais on ne peut pas se fier uniquement au nombre d'heures qu'un jeune passe à l'ordinateur. Il y a aussi la présence de troubles fonctionnels, problèmes de sommeil, d'alimentation, conflits familiaux, etc. et une souffrance cliniquement observable liée à l'utilisation d'Internet. Ce qui complique les choses, c'est que lorsque le jeune est en ligne, cette souffrance est moins grande. La perte de contact avec la réalité et le monde extérieur est l'une des conséquences de cette dépendance. Qu'est-ce qu'un parent peut faire dans ce contexte pour éviter de voir son enfant sombrer? Quand les parents s'en aperçoivent, les jeunes sont souvent rendus loin dans leur dépendance. Ils s'en rendent compte lorsque leur ado n'échange plus avec eux, qu'il ne dort plus, ne respecte plus les règles familiales ou réagit de façon agressive lorsqu'il tente de limiter son utilisation d'Internet. Mais c'est un processus qui est en construction depuis des mois, voire des années. D'où l'importance de la prévention. Quelles sont les mesures préventives qu'un parent peut mettre en place? Je crois que les parents doivent assurer à leurs jeunes une qualité de vie hors ligne. Parce que le problème des cyberdépendants, c'est qu'ils ont une qualité de vie en ligne qui est plus grande que celle hors ligne. Les écrans, par exemple, devraient être dans des lieux communs pour voir l'utilisation qu'en font les jeunes. Il faut aussi faire des activités avec vos ados. C'est toujours plus facile de dire « viens, on va faire telle activité » qu'arrête de jouer. Dans le documentaire, il y a un jeune qui dit « Vous, les parents, êtes les dernières personnes à qui on va se confier parce qu'on ne veut pas vous décevoir. » Comment réagir à un constat comme celui-là? C'est une phrase qui m'a aussi beaucoup frappée comme parent. On peut juste se montrer ouvert, maintenir un dialogue, parler de ses inquiétudes et offrir des options à nos enfants qui pourraient être plus à l'aise de parler à un autre membre de la famille. Les applications d'aide en ligne, comme celles proposées par M. Taillefer, sont aussi une voie d'avenir. Ça peut être plus facile de parler de sujets douloureux protégés derrière un écran que de faire face à une personne qui risque de nous juger. Loïc est un garçon qui apparaît dans le documentaire et que vous êtes parvenu à aider au centre Le Grand Chemin. Comment l'avez-vous rattrapé? Quand on reçoit quelqu'un comme Loïc, dans notre centre d'hébergement, la première chose à faire est de l'aider à retrouver une saine hygiène de vie. Bien dormir, bien se nourrir, faire des activités physiques. Avec l'aide des intervenants, l'encadrement, la vie de groupe, on arrive à aider le jeune à passer par-dessus la phase d'anxiété résultant du fait qu'il n'est plus en ligne. C'est une démarche semblable à celle d'un toxicomane. Quels sont les signes de détresse d'un ado cyberdépendant qu'il faut absolument avoir à l'œil? Les idées obsessionnelles lorsque l'adolescent n'est pas en ligne, quand il n'arrive plus à parler d'autre chose que le jeu en ligne, c'est un indicateur important. Quand il a une réaction émotive lorsqu'il n'a pas accès à un ordinateur. L'abandon des activités hors ligne pour les activités en ligne. Lorsqu'il perd intérêt pour des activités qu'il faisait avant, comme les scouts, le hockey, le soccer, des choses qu'il aimait bien faire et pour lesquelles il a tout à coup perdu intérêt. Ça peut être une bonne stratégie de regarder ce documentaire avec ses ados, non? Ce que je trouve intéressant dans ce documentaire, c'est la parole qui a été donnée aux adolescents. Ça permet aux ados qui vont le voir de s'identifier à eux. Moi, j'ai été bouleversée à l'écoute de ce film. J'espère que ça entraînera une discussion familiale. Est-ce que ça peut avoir un effet préventif? Je ne sais pas. Mais au moins, ça va soulever des questions. L'étape suivante revient aux parents pour trouver l'aide nécessaire lorsque la situation s'aggrave. Alors, ce documentaire qui a été diffusé mardi dernier, je m'excuse, est disponible encore sur le blog télé de iciradiocanada.ca ou encore sur icitout.tv. Alors, c'est Jean Siagle dans la Presse Plus du 4 décembre qui en parlait avec un des intervenants.
Ma vie s'est dégradée en tons de gris, monochromie, monotonie, mélancolie, beaucoup de nuits, beaucoup d'ennuis, je sens que je fléchis et je réfléchis. 14 étés déjà jetés, qu'aurais-je été? Une bougie soufflée trop tôt comme mon ami mort en moto. Une statistique pathétique dans une chronique nécrologique. Un Québécois de plus en moins, ça ferait-tu quoi à quelqu'un? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas rien qu'une mauvaise passe. J'aimerais disparaître comme dans un tour de passe-passe. En attendant, je veux bien paraître dans la parade de la parade. Mascara, mascarade pour mes parents, mes camarades. Même si je suis massage, j'ai rénové ma façade. La clôture métallique est un sourire orthodontique. Dans les murs, les fissures ont été colmatées. Les volets sont repeints, la toiture est refaite. L'imposture est parfaite à l'intérieur. Tout est décrépit, la charpente est pourrie. Les tapis sont finis, puis la tapisserie est moisie. Les lambris sont recouverts de verre de gris. Les amis, je vous le dis, tout ça c'est bon pour l'incendie. Je suis sur un site de Nukula. Si je me souviens comme il faut, dans le garage y'a tout ce qu'il faut. Escabeau, corde à canot et un anneau assez haut. ICO, ICO. Et si jamais je m'accrochais, ce serait à la vie ou à un crochet. Thank you. c'est pas du harlequin. Il prévoit la fin des miens. Est-ce que son destin sera le mien? C'est pas certain. J'ai peut-être pas la rage de vivre, mais j'ai pas le courage de mourir. Fatigué, indécis, c'est mon récit. Ces temps-ci, j'ai réussi mon entrée, mais je veux pas rater ma sortie. C'est vain quand y'a pas d'horizon. À mes pieds y'a un ravin, pis j'en vois même pas le fond. Si je lève mes deux mains, je bute sur un plafond. À quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond? Avancer, c'est vain quand y'a pas d'horizon. À mes pieds y'a un ravin, pis j'en vois même pas le fond. Si je lève mes deux mains, je bute sur un plafond. À quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond?
C'était Loco Locas qui nous chantait leur chanson « M'accrocher ».
Oui, nous revoilà en studio. Et merci encore, Francine, d'avoir ramené ce sujet délicat à notre attention. Les discussions n'ont pas fini de se terminer à ce point. Catherine, avec ta magnifique revue « Caribou ».
Oui, « Caribou », toujours dans l'art culinaire québécois. Je m'intéresse cette fois-ci à le troisième portrait qu'il nous offre en début de revue. C'est la revue de l'automne 2017. C'est un article qui s'appelle « Une tradition bien aiguisée ». C'est un texte de Catherine Giroir. On rappelle qu'on est toujours dans des portraits où l'art fait sa place en culinaire et en gastronomie. Ce sont les deux chiens de traîneau de Bobby Alec Touctou qui nous accueillent d'abord, couchés devant la petite cabane brune près de la maison. On trouve le jeune Inuit, de l'autre côté de la porte, resté entrouverte, penché sur la pièce de bois d'une dizaine de centimètres qu'il sable minutieusement. Ça sera la poignée d'un ulluk, dit Bobby en anglais, en me tendant un morceau bien lisse qu'il a arrondi. À 24 ans, Bobby est un des rares jeunes d'Umiyajak, un village de Nunavik, habité par 390 personnes en bordure de la baie du Tson, à confectionner ce couteau inuit traditionnel réservé aux femmes. Un savoir-faire davantage maîtrisé et pratiqué par les aînés. Les femmes utilisent les ulluks pour tout faire. Autant pour couper les cheveux que la viande ou le poisson, précise Bobby sur un ton posé en se réchauffant les mains avec les poches de son manteau. La brise fraîche de septembre s'invite dans son atelier. Le ulluk est aussi utilisé pour tanner les peaux d'animaux ou encore pour couper la glace qui servira à construire un igloo. Et pourquoi n'est-il utilisé que par les femmes? Par tradition, répond simplement Bobby. L'image du ulluk est d'ailleurs associée à la femme dans l'art inuit. On suppose qu'autrefois, l'outil permettait aux femmes d'accomplir des tâches qui leur étaient réservées. Bobby pointe un ulluk terminé qui repose sur sa table de travail avec quelques outils. Sa forme rappelle celle d'un ancre. Ce couteau à lame ronde est peu connu des kalunak, qu'on appelle les non-inuits en Inuktuk, mais on en trouve au moins un dans chaque famille du Grand Nord québécois. Et ce, depuis bien longtemps. Les plus vieilles traces de ulluk remontent à l'an 2500 avant Jésus-Christ. On trouve quelques variantes de modèles selon les communautés inuites, mais la forme de ce couteau répartit toujours sur toute la lame la force utilisée en son milieu, le rendant idéal pour couper d'une seule main des objets durs, comme des os ou des tendons. Travaillant en tant que guide pour le parc Tursugik, le plus grand parc national du Québec, adjacent à Umiyak, Bobby fabrique les ulluks à temps perdu depuis qu'il a 16 ans. C'est mon oncle pour qui il est important de transmettre la connaissance des traditions aux jeunes du village qui m'a enseigné cet art, explique-t-il en installant sa pièce de bois dans un étau. Traditionnellement, le manche du ulluk était fait en bois de caribou ou en pierre, mais Bobby utilise plutôt le bois dur des palettes que le cargo du groupe Dégagnier laisse au village lorsqu'il y accoste l'été. Autrefois, en ardoise, le métal était rare au-delà du 50e parallèle. La lame du ulluk est aujourd'hui le plus souvent conçue à partir d'une lame de cironde neuve ou trouvée dans la décharge du village. Je commence par couper les dents de la scie avec un punch, un poinçon, et un marteau, puis je l'effile pour la rendre bien ronde, explique Bobby en remontant sa casquette pour mieux voir ce qu'il fait. Je fabrique ensuite le morceau qui connectera la lame à la poignée, que je façonne avec la ponceuse. continue en perçant-t-il un petit trou dans la pièce. « Fabriquer un look me prend une ou deux journées complètes, » dit Bobby en soufflant sur les copeaux de bois. Il en produit entre 5 et 10 par année, surtout en été ou au printemps, qu'il vend entre 80 et 140 $ s'il est vraiment joli ou qu'il offre en cadeau à des membres de sa famille. Chaque personne qui crée un look a sa propre signature. Chaque couteau est différent, ajoute le petit artisan, ses yeux en amande scrutant tous les petits détails de la pièce qu'il travaille. J'essaie de m'adonner à ces activités traditionnelles le plus souvent possible. Le jeune Inuit voudrait terminer quelques looks avant l'hiver, avant la saison de la chasse, dit-il, les yeux brillants. Debout au milieu de l'atelier, cet homme qui a commencé à chasser à 7 ans s'anime et raconte la chasse au phoque qu'il fait au harpon de la façon la plus traditionnelle. « On doit garder nos traditions vivantes », ajoute Bobby en assemblant des pièces de son look. « Il serait prêt demain. On reviendra le lui acheter. » Le jeune homme y grave son nom, comme il le fait sur chacune de ses créations. Une façon de laisser sa trace, en quelque sorte, sur une petite pièce qui raconte une très grande histoire. Alors voilà, c'est un texte de Catherine Girouard, une tradition bien aiguisée, qui fait partie du caribou de ce numéro 7 de la culture québécoise raisonnée.
Restez avec nous, l'émission, le deuxième volet, la Voix de Service Magazine, se poursuit avec nos collaboratrices Francine et Catherine après la pause.
Cendrier, puis tu serais trop fatigué épaule qui serait la mieux.
Robert Charlebois, des paroles de... Là, j'ai un blanc parce que je suis en onde. Réjean Ducharme,
voilà. Okay. Merci. Merci, Mathieu. On t'excuse. Et voilà, Hélène Bédard au micro. Je vous reviens avec un texte paru dans le Devoir d'il y a 2 jours de Francine Pelletier, et c'est une chronique « Une lueur au bout du tunnel ». Depuis 28 ans déjà, le souvenir d'un certain 6 décembre s'abat comme une chape de plomb. Impossible à oublier. Heureusement, il y a autre chose à broyer que du noir cette année. Au-delà de la douleur et de la colère, au-delà des « gun knees » qui réclament bêtement l'abolition du registre des armes à feu, on voit pour la première fois une éclaircie à l'horizon. Mieux encore qu'à l'occasion du 25e anniversaire où tous, du chef de police aux politiciens présents, ont parlé d'un crime contre les femmes, aveu qui s'était fait péniblement attendre, on assiste aujourd'hui à un véritable retour du balancier. Car si le geste odieux de Marc Lépine, né Gamil Garbi, a marqué la fin d'un certain féminisme insouciant, voire triomphant, la campagne actuelle de dénonciation envers les agressions sexuelles marque le retour d'une parole de femme qui porte. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que les femmes se plaignent et que des hommes puissants tombent sur le champ. Depuis que les femmes se lèvent, rien ne ressemble en fait à ce règlement de compte. Le féminisme a réussi à changer des lois et avec elles la place des femmes dans le monde. Il a réussi à mettre fin à une soumission millénaire, mais malheureusement pas au dénigrement. Avec les années, le contraste entre l'épanouissement des femmes d'une part et la violence qu'elles continuaient à subir, malgré tout, détonnait de plus en plus, à tel point qu'on a conclu à des espèces de vases communicants. N'est-ce pas d'ailleurs le message de Marc Lépine, qui disait « Vous pensez que vous pouvez prendre la place des hommes ?» Et dans son texte, il y a une série de « ratatatata » qui est la violence des coups de feu. La violence serait toujours là pour remettre les femmes à leur place. Ici au Québec, on a mis du temps à reconnaître l'aspect politique carrément terroriste de l'infâme assassin. Longtemps, on n'y a vu que du feu, alors que le monde entier s'émouvait de ce que Pierre Bourgault appelait le premier crime sexiste dans l'histoire, on refusait de tirer des leçons de l'événement du 6 décembre. Il n'y avait rien à y comprendre, sauf la démence manifeste d'un pauvre type. Quelques jours après le drame, un éditorial du journal Le Soleil est allé jusqu'à dire que cette hécatombe n'avait rien à voir avec les femmes. Tragique hasard. Un point, c'est tout. Je me suis longtemps interrogé sur le silence obtus entourant le drame de Polytechnique pour conclure qu'il devait s'agir des conséquences de la Révolution tranquille. Depuis les années 60, l'histoire du Québec est après tout scindée en deux. Comme la Bible, il y a la grande noirceur de l'Ancien Testament et les voies ensoleillées des temps nouveaux. Il y a l'avant, c'est-à-dire le mauvais, et l'après, le bon. Il y a là où on ne veut absolument pas retourner et là où on se dirige d'un pas plus léger. Peuple miraculé s'il en est un, les Québécois ont tendance à croire que tout le mal est derrière eux. Le Québec moderne se voit. Pensons au débat sur la Charte des valeurs, sur le racisme. Donc, le Québec moderne se voit plus innocent qu'il ne l'est. Cette propension à se donner le bon Dieu sans confession, la tuerie du 6 décembre en aura été le premier grand exemple. Mais à la lumière des milliers de témoignages d'abus sexuels qui tapissent désormais la place publique, on voit qu'il y a une autre raison, plus universelle cette fois, au silence malaisé qui entoure la violence faite aux femmes. Jusqu'à maintenant, les hommes ignoraient ce que vivent les femmes. La grande majorité d'entre eux ne savent pas ce que ça veut dire que de se promener dans un corps perpétuellement à découvert, vulnérable à l'intimidation, à l'insinuation, aux mains baladeuses et aux farces qui ne sont pas bienvenues. N'y voyant que les artifices de la séduction, ils ne constataient ni l'outrage ni le rapport de force inhérent à ce genre de situation. Comme le dit l'essayiste Stéphane March, les hommes arrivent à ce moment de reddition, stupéfaits par ce que vivent les femmes. Après le drame de Polytechnique, peu d'hommes se sont sentis interpellés par la menace qui pesait sur les femmes. Le drame était trop sanglant, trop extrême. Quel homme normalement constitué pouvait s'y reconnaître? Le réflexe est le même en lisant la manchette du dernier drame conjugal. Mais aujourd'hui, devant le champ de ruines des rapports de séduction, les lumières s'allument, les connexions se font, les dettes se paient. C'est un moment immensément important pour les femmes. C'est un texte de Francine Pelletier qui parut cette semaine, le 6 décembre, Lueur au bout du tunnel dans Le Devoir. Es-tu prête? Alors, Francine nous entraîne maintenant.
Texto et littérature. Je texte, donc j'écris. Le premier texto a été envoyé il y a 25 ans. Ce moyen de communication a-t-il influencé nos façons d'écrire? Quelle est son influence dans la littérature? On se penche sur la question avec Nathalie Collard dans la Presse Plus du 3 décembre 2017. La grande majorité d'entre nous possède un téléphone cellulaire et le texto fait désormais partie de nos vies. Nous maîtrisons tous l'envoi des messages brefs et nous nous amusons avec les abréviations qui se rapprochent parfois du dialecte, comme LOL. Les écrivains n'échappent pas à cette influence. Sophie Marcotte, professeure au département d'études françaises de l'Université Concordia, remarque depuis 2 ans l'apparition des textos dans les romans contemporains. Ils ne sont pas seulement évoqués, ils sont intégrés à la trame du récit. Ils ont un impact sur le récit en ce sens qu'ils influencent l'intrigue et le degré de sociabilité entre les personnages. Chercheuse au sein de Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, qui regroupe des chercheurs de plusieurs universités, Sophie Marcotte dirige le laboratoire NT2, dont le mandat est d'explorer de nouvelles formes de textes et d'œuvres hypermédiatiques. Elle note que les textos sont particulièrement utilisés dans les romans policiers et d'espionnage. La chercheuse cite l'exemple de la trilogie Extrême de Jean-Jacques Pelletier, parue chez Urtubise, dans laquelle les personnages communiquent par texto ou avec des chatbots, c'est-à-dire des robots logiciels. Avant, pour introduire un dialogue, il y avait une pause descriptive dans le récit. L'action était suspendue, note-t-elle. Ce n'est plus le cas. À l'aide des textos, on fait progresser l'intrigue et on apprend davantage sur les personnages. On n'est plus dans l'évocation. Sophie Marcotte remarque toutefois que les textos n'ont pas d'influence sur la qualité de la langue. On reste dans le vocabulaire normatif, assure-t-elle. Par contre, ils ont modifié la mise en page d'un récit. On met en page la fenêtre d'un texto, ce qui permet visuellement de l'intégrer dans la trame narrative. Un rythme différent. Au Canada, comme aux États-Unis, les applications mobiles qui permettent de lire de courts récits racontés sous forme de texto, les chat fictions, sont de plus en plus populaires. L'application Hooked, par exemple, avait été téléchargée 20 millions de fois l'été dernier. Ses utilisateurs? Des jeunes de 25 ans et moins, pour la plupart. Au Canada, la plateforme Wattpad a poussé le concept un peu plus loin. Elle permet d'insérer des extraits audio et vidéo et offre au lecteur de choisir la fin qu'il préfère. Jusqu'ici, ces applications sont davantage reconnues pour leur côté divertissant que pour la qualité des récits publiés. Professeur au département d'études littéraires de l'UQAM, Bertrand Gervais observe quant à lui, dans les textes, une résurgence de la phrase brève, des fragments, de la poésie aussi. Je vois beaucoup de formes syncopées, souligne-t-il. Les dialogues sont insérés dans les textes, on ne fournit plus le contexte, car avec le texto, le contexte est implicite. Il n'est pas le seul à remarquer ces changements, aussi subtils soient-ils. Les courriels nous avaient déjà préparé à une nouvelle expression plus abrupte et directe, note pour sa part Olga Duhamel, directrice littéraire à la maison d'édition Héliotrope. Certains auteurs en font vraiment quelque chose, sur les réseaux sociaux notamment. On voit que l'expression s'affine chez certains, qui sont ensuite, avec leur texte, davantage dans l'assemblage de fragments. Est-ce une conséquence du texto, peut-être? De toute cette technologie de la communication rapide, assurément. On a tous à notre actif un texto ou deux rédigés de manière phonétique pour aller plus vite ou pour le pur plaisir de la chose. Mais les intervenants interviewés sont unanimes. Il n'y aurait aucune influence négative des textos sur la qualité du français en général. Le texto est plus dangereux pour les piétons que pour la langue française, lance à la blague Bertrand Gervais, professeur à l'UQAM. Les gens savent distinguer les usages selon le contexte. Même son cloche à la part de Thierry Carsenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation de l'Université de Montréal. Il mène depuis plusieurs années une étude à ce sujet auprès des élèves du secondaire. Ses plus récents résultats, compilés au cours de la dernière année, sont formels. Il n'y a pas de lien entre les textos et les fautes d'orthographe. Oui, c'est le plus grand fléau en classe et ça envahit le quotidien de tout le monde. Mais au niveau de la langue, il n'y a aucun lien entre la qualité du français et la rédaction de textos. C'est un dialecte entre jeunes utilisé pour exprimer des émotions, mais on n'observe aucune trace de texto dans les travaux scolaires, mis à part un occasionnel petit émoticône sourire à la fin d'un travail. Mené auprès de 4390 élèves âgés de 14 à 16 ans et issus de 7 écoles secondaires, cette étude révèle que sur les presque 80% d'élèves qui possèdent un téléphone cellulaire, le quart l'utilise surtout pour envoyer des textos. En moyenne, les jeunes répondants disent envoyer 50 messages textes par jour. Plus du tiers en envoient plus de 50. À noter que 90% des répondants au sondage communiquent par texto avec leurs parents. Le texto est utilisé pour exprimer ce qu'on fait, ce qu'on ressent, note Thierry Carsenti. Ça se veut très court. Les élèves interviewés dans notre école sont catégoriques. Pour eux, ce sont deux choses complètement différentes. Et ça va plus loin encore. Ils n'écrivent pas leurs textos de la même manière quand ils écrivent à leurs amis ou à leurs parents. En fait, poursuit Thierry Carsenti, on pourrait même dire que les textos amènent en quelque sorte les étudiants à lire davantage. Il y en a même qui y voient un avantage parce que l'autocorrecteur leur apprend la bonne orthographe des mots. D'autres affirment que grâce aux textos, ils sont plus rapides dans la prise de notes. Personnellement, je note que le temps passé à texter, c'est du temps de moins pour faire autre chose, comme lire un livre, par exemple. Alors Nathalie Collard sur Textos et littérature dans la Presse Plus du 3 décembre.
Nous revoilà en ondes et Catherine va poursuivre sa revue chouchou qui s'appelle Caribou.
Oui, bien sûr. J'attaque maintenant la série Zoom, qui sont peut-être des dossiers un peu plus précis. Et j'avais envie de vous parler peut-être un peu plus de styliste culinaire, parce que c'est tout un métier quand même. L'article s'appelle « Présentation suggérée ». C'est un texte de Pierre Duchesneau. C'est un des magiciens de l'ombre grâce auquel vous salivez devant les boîtes de pizza surgelées au supermarché ou l'appétissant carpaccio de bison dans votre magazine de bouffe préférée. Le styliste culinaire Daniel Rache nous révèle les dessous de son art. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce métier, c'est lui qui m'a choisi, dit Daniel Rache en parlant de son gagne-pain, lequel consiste à mettre en valeur des plats ou en reproduire certains éléments qui seront photographiés pour servir ensuite à illustrer des emballages ou des publications. Doublement bachelier en art visuel et en design graphique, l'esthète de 42 ans est d'abord passé par le milieu de la pub avant de devenir styliste culinaire pour divers clients, producteurs laitiers, rôtisseries, fabricants de produits surgelés, magazines, etc. Mon but, c'est de créer une histoire, puis d'amener le consommateur à y embarquer, explique celui qui a des encyclopédies de cuisine pour livres de chevet et qui se définit comme un gourmand pur beurre, une qualité essentielle à son avis pour aller chercher le meilleur angle. Parmi ses muses, Donna Hay et José Di Stasio, toutes deux stylistes culinaires de profession. Elles ont en commun d'avoir su intégrer la notion d'art de vivre à la cuisine. L'accent n'était pas mis strictement sur la réalisation d'une recette, mais sur la célébration du beau et du bon, précise-t-il. Quelques secrets de stylistes. Le fromage, ex aequo avec le chocolat, le fromage fondu, pardon pour l'anglicisme, mais c'est un mot mauvais, il dit, is a B, petit signe, T-C-H, souligne Daniel avec humour. Il perd rapidement ses qualités élastiques et des perles de gras apparaissent à sa surface quand il refroidit. Le gun à décaper, un outil qui projette un jet d'air très chaud en vue de détacher de la peinture d'une surface, est souvent appelé à la rescousse pour lui faire retrouver son fondant et le griller. La crème glacée, l'exemple classique du produit qui s'altère en un rien de temps. Le temps, l'ennemi numéro un du styliste culinaire. Sous l'effet de l'éclairage, surtout. Chacun a sa recette pour la remplacer. Pour certains, ce sont les patates pilées. Dans mon cas, c'est un mélange de graisse végétale, de sucre à glacer, de sirop de maïs et de colorant. Pour de la crème glacée aux fraises, j'ajoute de la confiture. Le lait. Oui, ce qu'on entend est vrai, à savoir que le lait qu'on voit sur la boîte de céréales n'est pas du lait, mais bien de la colle blanche. Ça peut aussi être des mélanges à base de latex et d'autres fluides. La volaille. On la met au four seulement 30 minutes, puis on la maquille avec du colorant. Le gun à décaper permet ensuite de reproduire l'effet rôtissoir. Les glaçons. Les vrais fondent en un clin d'œil, ce qui déplace les quartiers de citron ou les feuilles de menthe qui se trouvent dans un verre. On utilise donc des faux glaçons en acrylique, vendus dans des commerces spécialisés. Mais ils coûtent la peau des fesses. J'ai même un confrère qui leur a confectionné un étui en mousse pour éviter qu'ils s'égratignent. Alors voilà, c'est quelques propos recueillis sur le métier de styliste culinaire. C'était un texte de Pierre Duchesneau.
Nous poursuivons nos lectures. J'ai ici un texte de l'actualité. C'est une femme présidente, est-ce que ça change le monde? Tous ne sont pas convaincus que Hillary Clinton aurait fait avancer la cause des femmes en devenant présidente des États-Unis, mais la portée symbolique de son élection pourrait à elle seule déplacer des montagnes. Aussi compétentes et ambitieuses que les hommes, les femmes ne sont pourtant pas promues au même rythme et se hissent en moins grand nombre au plus haut échelon des entreprises. L'accession de Mme Clinton à la présidence des États-Unis aurait-elle changé la vie des femmes pour le mieux? Pour certaines observatrices, son élection ne serait pas automatiquement un bon pour la condition féminine. Encore faudrait-il qu'on mette en œuvre des politiques qui favorisent l'égalité des sexes. Il s'en trouve même pour affirmer que Bernie Sanders, qui était l'autre candidat à l'investiture démocrate, connu pour ses positions progressistes, aurait été un meilleur allié puisque, étant plus à gauche, il aurait été mieux armé pour lutter contre les inégalités socio-économiques qui affectent disproportionnellement les femmes. Mais pour d'autres commentatrices, voir une femme prendre les commandes du plus puissant pays de la planète serait une percée historique, si importante que cela constituerait en soi une révolution. Et ce, peu importe ce que Hillary Clinton accomplit concrètement durant son mandat et quel que soit ses inclinations néolibérales. J'ai trouvé des éléments de réponse à ce dilemme dans une élégante étude réalisée par la psychologue Iona Latu de l'Université de New Jersey et des collègues de la Suisse et de l'Allemagne. Le résultat a été relayé dans la revue Journal of Experimental Social Psychology. Selon ce fils à ses travaux, se trouver en présence d'un modèle de femme, de pouvoir, peut amener les femmes à se comporter elles-mêmes comme de meilleurs leaders en situation de stress. Pas besoin de la voir en chair et en os pour que la magie opère. Une simple photo accrochée au fond d'une pièce suffit. quelques 150 étudiants d'une université de Suisse, hommes et femmes, ont été recrutés pour se prêter à une expérience. Leur mission, faire le discours le plus convaincant possible devant le public pour s'opposer à une hausse des droits de scolarité. Les chercheurs ont eu recours à l'environnement contrôlé de la réalité virtuelle pour s'assurer que le décor et les réactions de l'auditoire seraient identiques pour tous les tribuns. Munis d'un casque de visualisation, les sujets ont fait leur exposé dans une salle virtuelle où avaient pris place 12 spectateurs. Les conditions étaient donc les mêmes pour tout le monde, à un petit détail près. Certains sujets ont prononcé leur allocution dans une salle au mur vide. D'autres voyaient sur le mur du fond la photo d'un politicien en train de s'exprimer à un micro, soit Hillary Clinton, Angela Merkel ou Bill Clinton. Chaque discours a été chronométré, filmé, puis soumis à des juges indépendants qui en ont évalué l'efficacité sans connaître l'objectif réel de l'expérience. À la suite de l'exercice, les orateurs eux-mêmes ont aussi noté leur prestation. Avis donc aux politiciennes en herbe. Gardez à portée de main la photo d'une femme politique de cette trempe. Rien qu'en étant exposées à leur image, les participantes ont absorbé une dose de leur aplomb et reproduit une part de leur succès. On sait que les femmes ont tendance à être plus effacées que les hommes en public ou dans des contextes professionnels. On le constate entre autres au fait qu'elles parlent moins longuement qu'eux. Dans cette expérience-ci, comme à l'habitude, les femmes ont fait plus court que les hommes, mais seulement si elles faisaient face à un mur dénudé ou face à la photo de Bill Clinton. Il n'y avait aucun écart entre les sexes lorsque c'était l'image d'une politicienne qui était affichée. Les femmes ont alors osé prendre plus de place. Leurs discours se sont donc allongés de 24 % sous l'effet de la photo de Mme Clinton et 49 % plus long sous l'effet de la photo de Angela Merkel. Après la prestation, les oratrices qui avaient pris la parole face à une des deux femmes se sont dites plus satisfaites d'elles-mêmes que celles qui avaient discouru devant Bill Clinton ou un mur blanc. De plus, leurs discours ont été jugés meilleurs par des évaluateurs externes, tant du point de vue de la structure des arguments que sur le plan de la posture et de la voix. Fait intéressant, la présence ou non d'un modèle masculin ou féminin n'a aucune influence sur les allocutions des hommes. Peu importe ce qui était visible sur le mur du fond, ils ont disserté tout aussi longuement et avec autant de conviction, sans doute parce que leur monde est déjà peuplé de leaders qui leur ressemblent. D'autres chercheurs avaient démontré les bienfaits des modèles féminins dans le domaine scolaire. Dans les matières traditionnellement masculines comme les maths, les sciences, les filles obtiennent de meilleures notes lorsque leur prof est une femme. Iona Latu, celle qui a mené l'expérience, est l'une des premières scientifiques à avoir examiné ce phénomène dans la sphère politique. Le manque de modèles féminins forts crée un cercle vicieux, écrit-elle, parce que si les femmes n'accèdent pas à des postes de pouvoir, elles ne peuvent pas devenir des modèles à suivre pour les plus jeunes. Heureusement, comme le montre notre étude, en prenant pour modèle des politiciennes qui ont réussi, les femmes peuvent surmonter l'effet paralysant des stéréotypes négatifs. Imaginez un monde où l'effigie de la présidente des États-Unis tapisserait le paysage médiatique. Ce monde transmettrait comme par osmose une dose de confiance, d'audace, de sang-froid aux femmes qui aspirent à des rôles d'autorité. Imaginons maintenant un monde où les femmes ne sont plus systématiquement la minorité parmi les chefs de file qu'on célèbre, les experts qu'on interviewe, les artistes qu'on honore, les têtes d'affiche des médias, les galas, les festivals, les conférences. Ces formes de reconnaissance ne sont pas que des reflets neutres de la réalité, elles façonnent activement les leaders de demain. C'était un texte de l'actualité de Noémie Mercier. Et voilà.
Étant donné que je vous présente toujours des textes par rapport à l'art culinaire, pourquoi ne pas vous mettre un peu l'eau à la bouche sur la semaine prochaine? La semaine prochaine, je vais vous parler d'un dossier super intéressant qui s'appelle « La cuisine est-elle un art? » Aux côtés de l'architecture, de la sculpture, des arts visuels, de la musique, de la littérature, des arts de la scène et du cinéma, quelle est la place de la cuisine? Peut-on considérer sa pratique comme une forme d'art? Alors voilà, c'est ce qu'on discutera la semaine prochaine autour de la table.
Bien hâte de vous entendre. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, chère collaboratrice. Merci, Francine.
Bien, merci, Hélène. C'est avec plaisir qu'on se retrouve ici le vendredi matin.
Merci, Catherine.
Merci, Hélène. Bonne semaine.
Merci, Mathieu. Bonne semaine à tout le monde.